dans l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu, nous poursuivons le discours parabolique botanique, si je puis dire. Trois similitudes nous sont offertes aujourd'hui. La première, bien plus développée, comprend son exposé et son explication par Jésus, entre lesquelles sont disposées deux autres petites paraboles capitales. Le premier enseignement de la grande parabole est inattendu. Dieu lui-même, en son Fils, ordonne qu'on laisse pousser ensemble l'ivraie et le blé, et qu'on n'arrache pas l'ivraie. Le mal poussera donc avec le bien jusqu'à la moisson, qu'on se le dise. Pour nous qui sommes si prompts à réclamer la peine capitale dès qu'un mal surgit chez les autres, voilà un enseignement très fort et même assez énigmatique. Alors peut-être faut-il creuser un peu plus profond, justement là où la graine est semée. Alors une question s'impose, au fait, c'est quoi l'ivraie ? D'après les savants, il s'agit d'une herbe annuelle, donc qui pousse chaque année, de la famille des graminées, comme le blé, le seigle et l'orge. Mais qui diffère complètement par ses propriétés, parce qu'elle est vénéneuse. Et des études ont montré que ce n'est pas la plante en soi qui est vénéneuse, mais un champignon qui surgit à un moment de sa croissance et qui la rend vénéneuse. Je ne le développe pas ici, mais spirituellement, ça peut nous parler. Les effets qu'elle produit sur l'organisme, comparés à ceux de l'ivresse, lui ont valu son nom vulgaire de « herbe à l'ivrogne ». Et le danger de l'ivraie, ivrogne a donné ivraie, hein, vous avez compris. Et le danger de l'ivraie résulte surtout de ce qu'elle croît, du verbe croître, habituellement parmi les moissons et sous tous les climats. L'ivraie est donc une herbe dangereuse, saoulante, pourrait-on dire, qui se glisse naturellement dans les bonnes semences. Et cela s'aggrave du fait qu'il faut faire très attention pour distinguer l'ivraie et le blé, l'un de l'autre, avant leur maturité définitive. Car durant leur croissance respective, toujours d'après les savants, ils se rassemblent beaucoup. Et il est donc en vérité impossible d'arracher l'ivraie sans risquer d'arracher aussi le blé avec ses racines. Pour prendre une image peut-être plus locale, encore qu'il y a peut-être de l'ivraie même dans le Var, c'est un peu comme si on plantait dans notre région de la fausse menthe au milieu de la vraie menthe. Il y a quelque temps, il y a une dame, une américaine, qui passait devant le monastère et qui disait qu'elle était très intéressée par les plantes, elle pensait avoir trouvé de la menthe. Alors je lui dis non, ça sent la menthe, mais ce n'est pas de la menthe. Maintenant que je suis expert là-dedans, je peux parler. Et Voilà, les feuilles sont moins brillantes, mais ça sent la menthe, ça ressemble à la menthe. Vous les mettez dans l'eau, il ne se passe rien du tout. Hein. Voilà. Sauf que si on va arracher cette fausse menthe au milieu d'un champ de vraie menthe, on enlève la bonne menthe avec. C'est à peu près impossible. La manière dont l'ivraie est apparue dans le champ, par un ennemi qui l'a semé la nuit, dit Jésus, ne semble pas être une anecdote à l'époque de Jésus. Ce type de vengeance était connu. Dans l'Ancien Testament, au moment des razzias ou des invasions, le plus subtil, c'est de demander à chacun de prendre une pierre et de la jeter dans le champ. Ça le rend absolument incultivable. Bien là, c'est une autre astuce pour se venger de quelqu'un. On vient mettre de la zizanie dans son champ, de l'ivraie. En hébreu, c'est tzitzen. Ça a donné zizanie hein, dans notre langage aussi. Nous voyons ainsi que les astuces vengeresses des hommes n'évoluent pas beaucoup avec les siècles, soit dit en passant. Mais cela démontre aussi qu'un ennemi veut s'opposer à Dieu, et cet ennemi, nous le connaissons bien. Il faut savoir qu'il est toujours tous les mauvais coups, derrière tous les mauvais coups, et ne jamais l'oublier, le Satan. Alors la conclusion eschatologique de cette parabole nous assure une « happy end », pourvu qu'on ne soit évidemment pas identifié à l'ivraie. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous pouvez noter que le royaume des cieux est devenu le royaume de notre Père. Je ne vais pas développer, mais c'est intéressant aussi. Ce n'est pas une petite consolation de savoir cela. Alors, arrivé à ce point, nous pourrions faire nôtre la question du livre de l'Apocalypse. Jusque à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ? Enfin, quand même ! Alors Dieu laisse le mal pousser, mais on va où ? Comment ne pas songer en ces jours au vote de l'Assemblée nationale française légalisant l'euthanasie assistée ? Et cela malgré les heures de prière brûlées devant le Seigneur. La prière, ça marche toujours. So what ? Eh bien, les deux petites paraboles qui restent viennent justement éclairer cette situation. Avec la graine de sénévé, abusivement rendue par moutarde, ça n'est pas tout à fait pareil, qui devient un arbuste, nous comprenons que la vie pousse toujours. Vous n'avez qu'à regarder à l'étage, je vous promets que les enfants y sont vivants, hein ? Extraordinaire. Lisez les pages de Peggy sur les enfants, ça vous enchantera. La vie, ça pousse toujours. Nous découvrons de nouveau qu'il serait plus facile d'arrêter la vie que d'empêcher le soleil de briller. Si vous voulez essayer, commencez tout de suite. Hein. C'est une belle image pour signifier le royaume de Dieu. L'expansion du royaume de Dieu est inéluctable. Est-ce que vous réalisez que chaque seconde, le royaume de Dieu se développe dans le monde maintenant ? C'est le nénuphar à côté, c'est une blague, hein, il se dédouble. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Est-ce qu'on le croit, ça ? Mieux encore, Jésus nous précise que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Ainsi, nous pouvons comprendre que tous sont appelés à venir se réfugier sous cet arbre, cet arbuste insignifiant et pourtant capable de les recevoir. Encore un mystère, ça. Dieu, il fait de la place partout, même là où il n'y en a pas. Le royaume des cieux qui ne cesse de se développer peut accueillir l'humanité. Et la parabole du levain, toute petite là à la fin, Matthieu la mise, vient attirer notre attention sur l'effet que produit le royaume sur le reste du monde. Comme le levain, il fait lever l'ensemble. Peut-être vous avez fait du pain. Moi, j'ai une machine qui le fait pour moi, mais autrefois, je le faisais à la main. C'est extrêmement fascinant de voir une pâte, comme on dirait, qui s'abandonne. On met le levain dedans et on revient 3 heures après. C'est magique. La simple présence du royaume irradie le monde. Présent au cœur du monde, ce royaume arboricole le fait s'élever, on ne sait comment. Les secrets connus depuis l'origine du monde. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde, a dit Jésus. Alors la réunion de ces trois paraboles nous conduit à l'Eucharistie. Le pain de l'Eucharistie est confectionné avec du blé qui doit être pur. L'ivraie figure les hérésies qui risquent de corrompre l'orthodoxie de la foi et salir le pain, c'est-à-dire le corps du Christ. Et pourtant, ces hérésies demeurent et sont toujours présentes. Remarquez qu'elles ne se renouvellent pas beaucoup. Quand on a étudié celles des premiers siècles, on connaît celles d'aujourd'hui. C'est simplement parce que le Satan, il n'est pas très malin. Le diable n'est pas capable de créer du neuf. Il prend toujours des vieilleries et il les resserre. Il n'y a que Dieu qui peut faire du nouveau. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Ces hérésies demeurent toujours présentes, il nous faut donc être vigilants. Et d'autre part, la visibilité extérieure de l'Eucharistie est assez semblable à celle de l'arbuste né d'une graine de sénévé. Très peu de choses en apparence. Au moment de la consécration, s'il y a quelqu'un qui se promène dans le monastère, il ne va pas s'arrêter en se disant « Tiens, il s'est passé un truc pas banal là. » Ça ne se voit pas. L'Eucharistie naît initialement d'un grain de blé, mais l'Eucharistie est capable d'accueillir et de nourrir la totalité de l'humanité. Et enfin, le levain, qui fait lever toute la pâte, nous fait réfléchir sur l'effet que produit chaque miracle eucharistique sur le monde. À chaque Eucharistie, lorsque le pain devient le corps du Christ par l'effet de la puissance du Christ, déployée dans la parole consécratoire délivrée par un simple prêtre, le royaume des cieux traverse les murs et se propage dans le monde entier. Rien ne peut arrêter cette propagation, sauf le cœur de l'homme qui veut délibérément s'y soustraire. C'est un peu comme une explosion atomique que rien ne peut stopper, sauf un abri atomique, c'est-à-dire le cœur d'un homme fermé sur lui-même. Alors, assuré de la victoire du Christ et victorieux de la mort, puissions-nous présenter à son corps eucharistique qui vient en nous des cœurs ouverts et aimants, désireux de se laisser purifier de l'ivraie qui pousse en nous en même temps que le bon grain qu'il est lui-même. Amen.